session de théologie La parole de Dieu par le Père Samuel à Rimont, le 30 octobre 1992, premier cours.
Ça serait plus intéressant d'avoir des sujets plus précis, moins vastes, pour creuser certaines questions. Cette fois-ci, sur 3 jours, on va se servir du thème de la révélation et de la parole de Dieu, au fond pour découvrir ce qu'est la démarche théologique, découvrir ce qu'est l'approche théologique. Alors le Père Philippe, qui sera là demain et après-demain, travaillera plus sur ce que la parole de Dieu dit d'elle-même dans l'Écriture, et puis sur le lien entre parole de Dieu et verbe de Dieu, c'est-à-dire la lecture de l'Évangile de Saint Jean. Ce qu'on essayera aujourd'hui, c'est de préciser le lien entre la parole de Dieu et le travail de la théologie. Autrement dit, on va essayer de voir comment naît la démarche théologique. D'abord, comme arrière-fond, c'est là-dessus qu'on va travailler pendant cette première heure. Avant d'entrer dans la théologie, on est obligé de constater 2 faits. Le fait que l'Église nous donne l'Écriture. Et nous recevons l'écriture de l'Église comme ce qui nous révèle le mystère de Dieu. Donc l'écriture nous est donnée par l'Église comme contenant, non pas comme écriture, mais comme parole de Dieu, la révélation. Et notre foi... Et nous n'avons pas eu le temps de travailler théologiquement sur le problème de la foi avant de l'avoir. Pas plus que nous commençons par faire une critique du problème de l'Écriture avant de la recevoir. C'est important de voir que, pour nous, notre adhésion à ce que l'Église nous donne et à l'Écriture comme révélation est première pour notre foi. Mais ça ne nous empêche pas, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, de comprendre le problème que pose le fait de la révélation. Que Dieu se révèle n'est pas quelque chose d'évident. Vous voyez, c'est le second problème. Ça, c'est vrai pour la foi. Mais on va voir que pour l'intelligence humaine, la révélation, ça pose un problème. Et pour nous, le problème est d'autant plus aigu que l'Église n'est plus la seule à prétendre s'appuyer sur une révélation. La découverte des autres religions, on va vous dire, mais très bien, vous appuyez sur la révélation, mais d'autres religions s'appuient sur d'autres révélations. J'ai dit, la rencontre avec les autres religions nous oblige à nous poser la question, qu'est-ce que c'est la révélation chrétienne? Vous voyez, alors, la foi nous met directement en face du mystère de Dieu, j'ai dit, la foi a sa propre lumière. Et donc si dans la foi, j'ai la certitude que la révélation chrétienne, c'est une certitude qui est liée à l'amour, j'ai la certitude que la révélation chrétienne est autre chose que la révélation du Coran à Mahomet, il n'empêche qu'au point de vue de mon intelligence, c'est pas clair. C'est certain dans la foi, mais c'est pas évident. Il faut bien voir, vous voyez, j'allais dire, même dans l'intelligence du croyant, cette tension qu'il y a, inévitable, entre... ce à quoi il adhère dans la foi et ce qu'il comprend dans son intelligence. Et c'est de cette, surtout pour nous, j'allais dire, la confrontation au problème de la révélation est encore plus forte. Quand on était en temps de chrétienté, où il n'était pas question d'autre révélation que de la révélation judéo-chrétienne, vous comprenez que la question ne se posait pas beaucoup. On s'imaginait à ce moment-là qu'il était évident que Dieu s'était révélé, alors que ça n'a jamais été évident et que ça ne l'est toujours pas. C'est certain pour ma foi. La foi, elle me donne des certitudes, elle ne me donne pas des évidences. Si je vous demandais de m'expliquer ce que c'est que la révélation, vous ne pourriez pas. Par contre, vous êtes certes, la foi, l'adhésion de foi me donne la certitude que Dieu s'est révélé. L'intelligence, elle, elle est d'abord faite pour les évidences. Or, la foi ne me donne pas l'évidence. Elle me donne la certitude. Donc, la foi ne me fait pas comprendre ce à quoi j'adhère. Elle m'en fait vivre, mais elle ne me le fait pas comprendre. Alors, vous me direz, c'est bizarre de vivre de quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est le propre de la foi. Elle me met plus proche encore du mystère que, j'allais dire que, elle me met aussi proche du mystère que si je le comprenais. Mais je ne le comprends pas, c'est-à-dire que je ne vois pas, elle est obscure. Et donc si je reçois la révélation de l'Église à travers la parole de Dieu, il faut que j'essaye de comprendre, au fond, quel est le statut de cette révélation. Qu'est-ce que c'est cette révélation par rapport à l'homme et par rapport à Dieu? Alors, je n'ai pas à tout faire à zéro. Hein. Ça fait 2000 ans quand même que l'Église réfléchit dessus. J'ai la tradition derrière. Ça permet de gagner du temps. Mais j'ai, je crois, nous avons de manière particulière à essayer de comprendre que le grand risque du temps dans lequel nous sommes, c'est effectivement de dire, ben voilà, il y a des révélations. Et chaque religion est dépositaire d'une dimension de la révélation divine. Même certains chrétiens disent ça. Et alors, la foi, la révélation chrétienne est une révélation qui a une perfection unique. Mais au fond, ça n'enlève pas l'authenticité des autres révélations. Avant de pouvoir dire ça, vous voyez, il faut vraiment travailler sur le problème de la révélation. Et pour ça, essayez de comprendre qu'est-ce que je peux dire de Dieu uniquement au niveau de mon intelligence. Parce que la question est de savoir si je rêve que Dieu se révèle à moi ou s'il se révèle vraiment. Le problème énorme, il est là. Qu'est-ce qui me prouve que c'est Dieu qui se révèle? Si vous creusez bien la question, vous verrez que seul Dieu peut attester lui-même qu'il se révèle. On reverra, c'est le problème même de la révélation. Donc, vous voyez, la première question, c'est de Dieu, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je peux dire quelque chose? Si je ne peux rien dire de Dieu, je ne peux rien dire de la révélation. Et même l'utilisation du mot est équivoque. Et l'attitude, on va le voir, c'est le travail de la philosophie. C'est surtout sur ce travail-là qu'on va insister. J'allais dire, et de, pas de mettre en doute, mais de mettre en garde l'intelligence humaine de sa capacité d'illusion et d'a priori. Et donc, la philosophie va critiquer, au sens pas négatif, hein, sens positif, l'attitude religieuse. Le travail de la philosophie va être, et j'allais dire, c'est un préalable au fond à la... C'est un préalable à la théologie. Que saint Thomas au Moyen-Âge n'a pas eu à faire parce qu'il était déjà fait ce travail, mais qui pour nous est à faire, qui est de commencer par essayer de comprendre qu'est-ce que je peux dire de Dieu. Et est-ce qu'au fond l'homme peut dire quelque chose de Dieu? Donc vous voyez, je reçois l'écriture et la révélation, mais pour savoir comment y adhérer, c'est-à-dire pour savoir qu'est-ce que c'est cette révélation, est-ce que c'est purement des images? Une fois qu'on vous a dit que Dieu se révèle, et après, il se révèle comment? Est-ce que les images que Dieu me donne sont des images qui sont de pures images, qu'il faut simplement considérer comme des images? Est-ce que je peux m'appuyer dessus? Est-ce que je peux m'appuyer sur toutes les images que Dieu me donne? Est-ce qu'il y a des images sur lesquelles je dois m'appuyer et d'autres sur lesquelles je ne peux pas m'appuyer? Est-ce qu'il y en a qui ont un rôle plus important que d'autres? Vous voyez, tout ce travail-là qui est l'intelligence avec laquelle je reçois l'écriture. Parce que l'écriture, ça se reçoit pas simplement, ça se reçoit avec un cœur d'enfant, ça c'est la foi. Mais une fois que j'ai dit que je reçois avec un cœur d'enfant, ça suffit pas le cœur d'enfant. Parce que le cœur d'enfant, il met pas de relief. Il reçoit tout de manière égale, l'enfant. Or, si Dieu s'est fatigué pendant des pages et des pages, et des siècles à me parler de milliers de manières différentes, c'est pas pour que je reçoive tout comme un enfant. Au point de vue de l'intelligence. Au point de vue du cœur, je reçois tout comme un enfant. Mais pas au point de vue de l'intelligence. Un enfant, lisez-lui l'évangile de Saint Jean. Je suis désolé, il comprend pas. Il préfère que vous lui racontiez la vie de David ou celle d'Abraham ou la vie de Jésus. Mais lisez-lui le chapitre sur le pain de vie dans Saint Jean. Je suis désolé, il dormira au bout de 5 minutes. Donc je crois que c'est, vous voyez, c'est capital de voir que le... Et donc me préparer, essayer de comprendre comment est-ce que l'intelligence fait face à Dieu. C'est ça la question. Et donc comment l'intelligence, s'il y a révélation, comment l'intelligence doit recevoir cette révélation ? Alors je vous disais, la philosophie, j'ai dit, est méfiante à l'égard de l'attitude religieuse, à l'égard des traditions religieuses, dans la mesure où le travail philosophique me rend extrêmement lucide sur la rapidité avec laquelle je vis dans les a priori et l'imaginaire. Et évidemment, moins les choses sont visibles et plus la tentation de l'a priori et de l'imaginaire sont forts. Donc le lieu où les a priori et l'imaginaire ont le plus tendance, j'allais dire, à se développer, c'est le domaine religieux. Que c'est là que j'y vois le moins. Les a priori et l'imaginaire dans le domaine, si vous voulez, de la fabrication des voitures, ça va pas très loin. Les a priori et l'imaginaire dans le domaine du travail, de la philosophie du travail, ça va pas très loin. On a quand même Marx, mais j'allais dire, il y a une part d'a priori, mais ça va, il y a quand même un fondement réel. Même chose pour la philosophie politique, même chose pour la philosophie du vivant. Bien que déjà, vous voyez, savoir si on a une âme et qu'est-ce que c'est que l'âme, et savoir si, quel est le lien entre l'âme et le corps, on est rapidement dans l'imaginaire aussi. C'est pas commode de discerner exactement ce qu'il en est de l'existence de l'âme et de l'unité réelle qu'il y a entre l'âme et le corps. Dans ma vie à moi, c'était concrètement. Mais c'est évident que la question se pose éminemment quand il s'agit du problème de Dieu, qui est par excellence ce que je ne vois pas. Et dont je pressens, avant même de me poser la question, qu'il y ait toutes les chances que je ne puisse pas en dire grand-chose. Et comme la nature a horreur du vide, je me chargerai de dire des choses qui ne sont précisément pas celles que j'ai découvertes. Parce que c'est très difficile de découvrir quelque chose. Donc le premier travail, j'allais dire, avant... Non pas avant de recevoir l'écriture dans la foi, mais avant de prétendre comprendre comment la recevoir. Du côté de mon intelligence, il faut que j'essaye que je reprécise, on ne va pas refaire évidemment toute la démarche ici, hein, mais que je reprécise qu'est-ce que mon intelligence peut atteindre du mystère de Dieu. C'est le travail de ce qu'en philosophie on appelle la théologie naturelle. La théologie naturelle, c'est le moment où la philosophie devient sagesse, c'est-à-dire où elle atteint son terme. Non, on ne va pas refaire un cours de théologie naturelle. Hein. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la seule voie par laquelle je puisse dire quelque chose de Dieu, c'est celle de l'être. Donc tout ce qui est du domaine du devenir, c'est une évidence, le devenir ne me révèle pas l'être. Le devenir, il conduit qu'au devenir. Or, si Dieu est, il n'est précisément pas dans le devenir. Le manque de chance, qui pour moi est le plus simple à comprendre, c'est précisément le devenir. Parce que tout ce qui est de l'ordre du descriptif, du sensible, de l'imaginatif, c'est dans le devenir. Y compris le travail scientifique. Mais c'est clair, j'ai dit ça là-dessus, il faut être parfaitement clair, c'est que le philosophe dira, toute tentative de parler de Dieu de manière précise, hein, pas de manière imagée, c'est pas gênant. Si on dit que c'est des images, ensuite on... Mais pour vous prétendre, je ne peux pas parler de Dieu de manière précise en me servant du devenir. Parce que si Dieu est, la seule chose que je vous voyez, c'est que précisément il n'est pas dans le devenir. Je n'ai pas rencontré Dieu. Dieu ne fait pas partie des choses en devenir. Et le devenir ne me révèle pas directement la présence de Dieu. Ça se saurait. Et donc la seule voie par laquelle mon intelligence peut prétendre dire quelque chose qui ne soit pas faux de Dieu, c'est l'être. Alors l'être, c'est pas caché derrière le devenir. L'être, c'est dans le devenir, mais précisément c'est le travail de l'intelligence de distinguer ce qui, dans mon expérience, n'est pas que le devenir. Ce qui est le plus fatigant en philosophie, parce que c'est trop simple, c'est extrêmement simple l'être. Mais précisément, comme c'est pas imaginatif, c'est très fatigant. Et tout le travail de la philosophie première, hein, c'est précisément d'amener l'intelligence, ce à quoi de toute façon elle est conduite par l'expérience. L'expérience humaine me conduit normalement, précisément, à dépasser le devenir. Et à voir que je ne peux pas m'arrêter à ce qui devient. Il faut bien que je découvre l'intelligence. L'expérience humaine m'amène par elle-même à dépasser le visible. Parce que le visible n'a pas son explication en lui-même. Et je n'ai pas besoin d'être métaphysicien, vous voyez, ou docteur en Sorbonne. Il suffit simplement de regarder, c'est tout, d'ouvrir les yeux. Si je suis dans l'imaginaire, je ne le verrai pas. Mais il suffit d'ouvrir les yeux sur le réel pour bien voir que le réel me est signe de quelque chose qui n'est pas visible. Qui n'est pas Dieu, hein, mais qui est que l'apparence visible du réel n'est pas le tout du réel. Dans la personne humaine, c'est typique. Vous regardez quelqu'un évoluer d'année en année, ou de dizaine d'années en dizaine d'années, vous voyez bien qu'il y a des centaines de choses qui changent. Pourtant, il y a quelque chose qui demeure. C'est la première expérience toute bête qui fait que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui demeure au-delà du changement. Tout en pressentant que si, encore une fois, je peux dire quelque chose de Dieu, c'est évidemment qu'il est radicalement au-delà de tout changement. Et donc, j'allais dire, l'intelligence commence, c'est le travail de la philosophie première, à se diriger vers le fondement, vers la stabilité du réel. Pas vers les lois scientifiques. Les lois scientifiques, c'est des constructions d'intelligence. Il n'y a pas de loi scientifique dans le réel. Les réalités quotidienne vérifie des lois. N'importe quel bout de craie, vous voyez, vérifie la loi de la gravitation. Mais vous n'avez jamais rencontré la loi de la gravitation. Une loi, ça ne se rencontre pas. Ça ne fait pas partie du réel, la loi. Au sens fort. Et ce que cherche l'intelligence, c'est ce que fait, j'allais dire, n'importe quel agriculteur ou n'importe quelle mère de famille, c'est précisément d'essayer de saisir quelle est la permanence des choses au-delà du changement. Ce travail, il est éminent en philosophie première quand je comprends que ce qui, dans la réalité, est radicalement au-delà du changement, c'est précisément ce que j'atteins quand je dis que ça existe. Et tout le travail de l'intelligence est de s'appuyer là-dessus pour découvrir comment, au-delà, alors on va pas refaire, je vous refais pas toute la démarche de théologie naturelle, mais comment, au-delà du devenir, au-delà même de toutes les réalités qui, tout en existant, donc en n'étant pas réductible au devenir, aucune réalité n'est un pur devenir. Elles existent, donc il y a toujours quelque chose qui demeure. Mais évidemment, dans l'homme, ce qui demeure est beaucoup plus radical que ce qui demeure dans le moustique ou dans l'eau, ou dans le fleuve, ou dans l'événement historique. Vous voyez, dans la personne, j'allais dire, Il y a une stabilité fondamentale qui est très impressionnante. Et dont je sens bien en plus qu'elle est plus importante encore que le visible. Quand on aime quelqu'un, on le voit bien, on apprend progressivement à s'apercevoir que le visible n'est là que pour dévoiler quelque chose de plus en plus profond. Et donc je découvre que, au-delà de toutes les réalités qui, tout en existant, sont dans le devenir, il existe une réalité absolument première qui ne fait pas partie des autres. Absolument première. Que les traditions religieuses appellent Dieu. Si vous voulez, entre ce que disent les traditions religieuses et la démarche de l'intelligence, le lieu de rencontre, c'est la théologie naturelle. La découverte d'un être premier. En plus, c'est aussi tout à fait clair, il n'y a que la réflexion sur l'être qui puisse me purifier radicalement de l'imaginaire. Parce que, vous voyez, sinon, je m'imagine Dieu dans le prolongement de mes désirs. Alors je dis, j'ai le désir et la soif d'un être absolument aimant. C'est très bien ça, mais vous me projetez. C'est pas parce que vous en avez le désir que ça existe. Ou j'ai le désir d'une réalité parfaitement compréhensible. Vous voyez ? Le désir ne me permet pas d'affirmer l'existence d'une réalité. Puis souvent, le désir, il est très lié à la présence de l'imaginaire. Alors que quand je vous dis ça existe, ça suscite aucun imaginaire. C'est très difficile de faire de l'imaginaire métaphysique. Parce que c'est trop simple. C'est ça ce qui est bon signe, d'ailleurs. C'est ça qui est, du coup, je suis certain que ça me ramène vraiment au réel. Et que je sors de l'imaginaire parce que je sors du devenir. Cette découverte, elle ne se fait pas par expérience. Je n'expérimente pas l'être premier. J'affirme son existence. Et très étonnamment, en même temps que je l'affirme, et vous allez voir que c'est déterminant pour notre travail, je sais que ce que j'en comprends n'est que le reflet infiniment lointain de ce qu'il est. C'est-à-dire que l'expérience que j'ai de l'existence n'a d'abord rien à voir avec son existence à lui. Vous voyez, parce que, même chose, on commence, arrivé à ce stade-là, je commence à me méfier passablement de la projection. C'est-à-dire de m'imaginer Dieu comme je voudrais qu'il soit. C'est qu'il est en dehors, il est là-haut, ou il est en dessous, ou il est dedans, ou il est derrière, vous voyez, ou il est depuis longtemps, et puis jusqu'à longtemps. Ça fait longtemps que Dieu sait que, et pendant longtemps encore, il se souviendra que, vous voyez, tout ça, toutes les images qui ne sont pas gênantes, si je comprends qu'elles sont métaphoriques, mais qui sont tout à fait perturbantes si je les prends comme réelles. Vous savez, quand on dit communément, mais pourquoi Dieu savait pourtant que Dieu ne savait pas, parce que chez Dieu, il n'y a pas un savoir avant et un savoir après. Pas plus qu'un savoir pendant. Ça, c'est imaginatif, de dire que Dieu savait que. Il n'était pas avant Dieu. Le temps, c'est du domaine du devenir, et Dieu n'est pas dans le temps. Donc le travail, j'allais dire qu'à ce niveau-là, c'est précisément de m'obliger à affirmer. Mon intelligence est obligée d'affirmer des choses qu'elle ne peut d'une part pas imaginer. De toute façon, ce n'est pas son travail d'imaginer. Mais qu'elle ne cerne pas non plus. Quand j'affirme que Dieu n'est pas dans l'éternité, Dieu, il est éternel. Ce n'est pas la même chose. Dieu n'est pas créateur comme un artiste fait des choses en dehors de lui. Sa création est autre que lui, mais elle n'est pas extérieure à lui. La création n'ajoute rien à Dieu, et pourtant elle est autre que lui. Donc il y a tout un travail de théologie naturelle. On ne va pas le refaire là. Je crois qu'il y a un peu. C'est quand on aborde le problème de Dieu qu'on a retravaillé tout ça. Mais ça veut dire que la démarche dans laquelle je suis, elle est au fond de me servir de mon intelligence, mais de manière négative. Donc en commençant par m'apercevoir que tout ce que j'ai dit de Dieu, c'est d'abord pas tout à fait juste. Et que déjà que je puisse affirmer son existence, c'est absolument énorme. Et encore, quand j'affirme l'existence de Dieu, c'est pas comme de constater, vous voyez, l'existence d'une cité perdue ou de constater l'existence de ma table. Je constate pas l'existence d'un être quand je découvre Dieu. Je découvre qu'il est au sens absolu du terme. Du coup, je me demande si vraiment moi j'existe. C'est ce qu'on appelle la transcendance de Dieu ou l'altérité de Dieu. Dieu est le tout autre. Je découvre, si vous voulez, la distance qu'il y a entre moi et Dieu. Et c'est cette découverte de sagesse philosophique de la transcendance de Dieu qui est sous-jacente dans certaines traditions religieuses. Qui doit me permettre de critiquer les traditions religieuses. Tout ce qui ne souligne pas suffisamment d'abord la transcendance de Dieu est toujours un peu anthropomorphique. C'est aussi ça qui me permettra de distinguer la présence de Dieu et ce qu'il est. Et donc Dieu est d'abord l'ineffable, celui dont je ne peux pas dire quelque chose de juste. Bien que je m'aperçois, c'est le travail de la philosophie, je ne peux pas dire que je peux rien dire. Ce que je dis n'est pas faux, mais c'est par analogie, mais une analogie au sens radical du terme. Alors vous voyez, avant même qu'on aille plus loin, ça veut dire que dans tout ce que l'homme prétendra ou affirmera être une révélation, j'aurai à discerner ce qui, dans cette révélation, me dit vraiment quelque chose de Dieu, ce qui respecte cette transcendance de Dieu, et puis ce qui la gomme. C'est typique, par exemple, s'imaginer Dieu comme une énergie. C'est très joli, mais je peux affirmer immédiatement que c'est imaginatif. Ça veut rien dire. C'est métaphorique, si vous voulez. À ce moment-là, si c'est métaphorique, il n'y a pas de problème. Mais au sens propre, ça veut rien dire. Parce que toutes les évidences que j'ai de l'énergie, c'est du domaine du devenir. L'énergie implique un rayonnement, une diffusion, tout ce que vous voudrez. En plus, c'est un concept très flou, ce qui est pratique. C'est très difficile que quelqu'un soit capable de définir l'énergie. Au sens grec, c'est facile. Mais au sens où on l'utilise aujourd'hui, vous mettez absolument tout. C'est essentiellement imaginatif, le concept d'énergie aujourd'hui. C'est pas pour rien, d'ailleurs, ça nourrit l'imagination en plus. Ça permet même, un scientifique vous dirait que c'est un concept qui permet de faire des inventions. Donc il est très pratique au point de vue imaginatif. Mais au point de vue du réel, c'est très pauvre de préciser ce que c'est que l'énergie. Et si Dieu est, d'abord il est, il n'est pas d'abord une énergie. En plus, si j'essaye de dire quelque chose de précis, je dirais qu'il est absolument simple et qu'il est une personne absolue, Dieu. Pas d'abord qu'il est une énergie. Parce que l'énergie fait partie de la personne, pas la personne de l'énergie. Donc la personne me dit beaucoup plus, quelque chose d'infiniment plus qualitatif du côté de l'être que l'énergie. Enfin, c'est un petit exemple, parce qu'on entend beaucoup parler de Dieu comme énergie, même en terrain chrétien. Ou des énergies divines. Il faut faire attention, ça veut dire quoi les énergies divines ? Il y a beaucoup de religions qui parlent des énergies. Vous voyez, des énergies, il y en a partout. Dans l'animisme africain, il est truffé d'énergie partout. Donc vous voyez, il faut faire attention de ne pas trop voir des énergies partout. Ça, c'est un petit exemple, si vous voulez, sur ce que l'autre, par exemple, pour prendre une manière dont la philosophie aidera le croyant chrétien lui-même à purifier son imaginaire. Il va lui dire, il ne faut pas que vous mettiez à croire que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit comme trois personnes qui seraient trois êtres. Ni même quand vous vous mettez à parler de communion éternelle ou d'échange éternel entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, vous êtes dans l'imaginaire complet. Ou vous êtes dans la métaphore, mais à ce moment-là, dites-le. Parce qu'un échange, ça implique une dualité. Un échange, ça implique un mouvement, et donc ça ne veut rien dire au sens propre. Ça veut dire quelque chose du côté de la métaphore, mais pas du côté propre. Et philosophe, j'allais dire, aura l'instinct de dire aux croyants, ben maintenant, expliquez-moi comment vous expliquez la Trinité alors que Dieu est absolument simple. Ça, je ne peux pas dire autre chose. Et c'est là, j'allais dire, alors, le croyant n'a plus qu'à se remonter les manches, hein, et puis effectivement, à essayer de montrer, face à ce que l'évidence de l'intelligence de sagesse me dit, que ça n'est pas absurde, ce qui m'est révélé dans l'Évangile. Oui, c'est important de ne pas renoncer à l'exigence de ce que l'intelligence découvre confrontée au réel au nom de la foi, parce que c'est toujours au détriment de la foi. Moi, je me fais une foi qui est au fond une espèce de petite philosophie améliorée ou encore inférieure, qui est une espèce de monde un peu imaginatif. C'est pas gênant du côté de l'amour, enfin c'est pas gênant, c'est pas tout de suite gênant du côté de l'amour. En allant un peu plus loin, c'est toujours gênant. Parce que, vous voyez, à force d'imaginer trop ce que j'aime, je risque de plus l'aimer. Mais c'est clair que, encore une fois, j'allais dire, les 2000 ans de tradition qu'on a derrière nous, c'est précisément pour travailler là-dessus. Donc vous commencez à voir qu'un des travaux de la théologie, ça va être ça. D'essayer au fond j'allais presque dire, de me débrouiller avec ce que Dieu me dit d'un côté dans l'Écriture, et de l'autre, ce que mon intelligence découvre du réel. C'est plus embarrassant qu'autre chose, d'ailleurs. Le théologien est toujours quelqu'un de gêné. Il aurait tendance à dire au bon Dieu, tu aurais pu faire les choses, vous voyez, de manière telle qu'on y comprenne mieux quelque chose. Mais vous voyez, d'avoir toujours les deux registres, c'est-à-dire ce que me dit la foi et ce que l'expérience me montre, c'est ça qui fait naître, j'allais dire, le dynamisme théologique. Mais c'est d'abord, enfin, c'est encombrant. Il faut l'accepter. Ça fait partie même, on le reverra, ça fait partie, c'est constitutif de la manière dont Dieu s'est révélé à nous. Il aurait pu se révéler de manière plus simple, ça c'est sûr. Par infusion intérieure lumineuse et éclairante, vous voyez, on n'aurait pas eu besoin de suivre des cours théologiques, ça aurait été beaucoup plus simple. On n'aurait pas eu besoin de la tradition de l'Église, on n'aurait pas eu besoin de l'enseignement de l'Église, on n'aurait pas eu le problème de la déformation de l'enseignement de l'Église par les médias, ça n'aurait pas existé tout ça. C'était beaucoup plus simple. Et en plus, je veux dire, c'est ridicule, c'était pas grand-chose pour le bon Dieu. Mais vraiment pas grand-chose. Eh bien, rien du tout. Et même quand il donne des dons charismatiques, c'est jamais des dons charismatiques théologiques. Donc je vous disais sur la transcendance de Dieu. Ensuite, la deuxième chose, toujours dans cette lumière de théologie naturelle et de sagesse, que j'ai à affirmer, je vous en ai déjà dit un mot, c'est le statut de la création par rapport au Créateur. Vous voyez, la transcendance de Dieu, c'est ça qui me rend, j'allais dire, prudent, et en même temps ce qui avive ma soif, hein, par rapport à toute révélation, c'est qu'au fond, je sais bien que dans la révélation, il faudra discerner ce qu'est Dieu, mais s'il y a des images, ça sera nécessairement infiniment au-delà des images. Moi, ça me rend, je ne sais pas comment vous dire, ça me donne la mesure de la vivacité de l'intelligence dans l'accueil de la révélation. Découvrir la transcendance de Dieu, ça me montre que il faut un dynamisme intérieur extrêmement grand pour ne pas, encore une fois, confondre. Quand je suis un enfant, c'est pas gênant. C'est le propre de l'enfant et de son statut de confondre l'image et le réel. Il vit dans un monde symbolique, l'enfant. On lui demande pas de faire des distinctions. Mais l'adulte, pas. Parce que l'adulte, ne serait-ce que d'aimer quelqu'un, on commence à apprendre le symbole et le réel. On confond pas normalement, enfin ça fait partie du temps des fiançailles, on ne confond pas l'image de la bien-aimée et ce qu'elle est. Parce que sinon, au bout de 6 mois, on s'aperçoit qu'effectivement, entre l'image qu'on a fini par s'en faire et ce qu'elle est réellement, il y a un décalage. C'est vrai dans l'amitié, c'est vrai dans tous les domaines. Donc c'est a fortiori vrai du côté de Dieu. Donc cette distinction entre l'image et la réalité, j'allais dire, encore une fois, cette découverte de la transcendance de Dieu, elle l'inscrit dans mon intelligence et mon cœur. J'ai presque dit, elle me donne la mesure de la visée, vous voyez, avec la profondeur à laquelle il faut que je vise à travers les images. Donc que je ne confonde pas, vous voyez, que je ne matérialise pas les choses. Il y a du problème du catéchisme quand il s'arrête à la 6e, vous voyez, ou à la 3e. Ou souvent ça s'arrête à la 4e, parce que c'est le moment où les classes deviennent intenables. Donc à partir de la 4e, vous voyez, je veux dire, on commence à peine à sortir vraiment du monde symbolique. Ben, si vous arrêtez le catéchisme à cet âge-là, c'est clair que l'intelligence du croyant, elle se stoppe à ce niveau-là. Donc, si vous voulez, on se souvient du passage de la mer Rouge, et puis le jour où on vous dit que c'est ridicule, vous dites oui, au fond, c'est complètement ridicule. Et vous n'avez pas appris, parce que ce n'est pas le rôle de l'enfant, à discerner précisément ce qu'il y avait à regarder avec une intelligence beaucoup plus pénétrante que celle de l'enfant, ce qu'il y avait dans le passage de la mer Rouge. Oui. Donc l'autre chose, c'est la création. Ça, c'est encore... Enfin, c'est du côté de Dieu, c'est tout à fait simple, mais c'est pas très simple de notre côté à nous. L'intelligence de sagesse est obligée d'affirmer que la création est en même temps immédiatement et totalement portée par Dieu. C'est une métaphore, hein, portée. Causé par Dieu. Tout existe actuellement de par Dieu de manière immédiate, dans son être. La réflexion sur la création, ce n'est pas le problème du Big Bang, ça n'a rien à voir. Le problème de la création, c'est la dépendance actuelle de la réalité existante à l'égard du créateur. C'est ça le problème de la création. Le lieu où la création est quelque chose d'actuel pour ma vie chrétienne, c'est l'adoration. C'est le fil à plomb, la création. Ce n'est pas le problème de savoir comment ça a commencé. Comment ça a commencé, c'est une autre histoire. Qui est importante, hein. Si la Genèse me le donne, c'est que c'est important. Mais le problème de sagesse, de théologie naturelle de la création, c'est quel est le lien de mon existence au Créateur. Eh bien, c'est sa dépendance absolue et immédiate. Je peux même aller plus loin. La création, ça ne veut rien dire que la création est extérieure à Dieu. La catégorie de l'extérieur et de l'intérieur, c'est la catégorie de boîte. Donc Dieu n'a pas créé quelque chose à l'extérieur de lui, puisqu'il n'est pas, c'est pas une boîte. Il n'y a pas de contenant dans Dieu. Il n'y a pas de contenu. Donc c'est métaphorique de dire que c'est extérieur. Si je vais être précis, je dirais que la création est autre que Dieu. Thomas d'Aquin précisera même, c'est que l'acte créateur du côté de Dieu est identique à Dieu. La création n'ajoute rien à Dieu. La création, elle est du côté de Dieu, elle est à l'intérieur même de sa contemplation. En Dieu, création et contemplation ne font qu'un. Dieu n'ajoute pas quelque chose à sa contemplation en disant ça y est, maintenant ça va exister. Mais de notre côté à nous, non. Notre côté à nous, nous sommes autres que Dieu. Nouvel ordre. Et c'est, j'allais dire, cette présence immédiate de la du Créateur à sa création qui m'oblige aussi à affirmer que cette création est nécessairement selon la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est pas sa cogitation, parce qu'il n'y a pas de cogitation en Dieu, puisqu'il est absolument simple. Mais la sagesse de Dieu, c'est sa contemplation. Donc j'allais dire, je suis obligé d'affirmer que la création est conforme à Dieu. Et il y a une harmonie nécessaire entre la création et Dieu. Ce qui me permet d'affirmer qu'au fond, la création est comme une révélation de Dieu. Ça, c'est capital, parce que du coup, je m'apercevrais que dans énormément de traditions religieuses, ce que j'appelle révélation de Dieu, en fait, c'est la découverte de ça. Découvrir ce que la création me révèle du Créateur, ça n'implique aucune intervention spécifique de Dieu. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Donc vous voyez, c'est analogue à une révélation, la création. Mais j'allais dire, c'est une révélation muette. Où Dieu se voile derrière son œuvre. Ce n'est pas une révélation directe. Et c'est très étonnant, et ça fait partie du travail de la théologie naturelle, de l'admiration de celui qui travaille en théologie naturelle, c'est de voir que la création voile en même temps qu'elle révèle Dieu. C'est très étonnant d'ailleurs ça. Dieu aurait pu faire les choses plus explicitement, si vous voulez. Ça pourrait être mieux marqué qu'il est là. Il pourrait signer plus souvent. Alors vous me direz, on est obtus, nous, d'accord, donc on a du mal à voir sa signature et à découvrir qu'en fait il est là partout et que c'était, enfin, que ça devrait devenir évident qu'il est là partout. Mais c'est vrai quand même qu'il aurait pu faire des efforts pour qu'à la mesure de notre petite intelligence un peu fêlée, ça soit encore plus visible. Or Dieu tient un juste milieu qui est très étonnant. Vous voyez, le statut de la création par rapport à l'être premier est très étonnant parce que je vois bien qu'elle est à la limite entre ce qui voile Dieu et ce qui le dévoile. Comme si la création était suffisante pour attirer et éveiller l'intelligence, mais pas trop pour qu'elle ne paraisse pas. Enfin, vous voyez, pour qu'elle ne s'installe pas dans la paresse. Parce qu'on
comprenez, si c'est le spectacle, on s'installe dans le fauteuil. Et au fond, bah, Dieu m'explique tellement les choses que j'ai même plus besoin de me fatiguer à les comprendre. Il y a un mystère d'éducation divine à travers. Ça, je peux le dire, j'ai pas besoin de la foi. Hein. Il y a un mystère d'éducation divine à travers la création qui est très étonnant. Parce que c'est clair que la création n'est pas la plus parfaite qui soit. Si tu regardais soi-même, on voit bien que le Seigneur aurait pu faire mieux. Donc c'est pas le but de la création, c'est pas la perfection. C'est pas non plus que Dieu soit parfaitement visible. Parce que même chose, regardez-vous dans la glace, c'est pas parfaitement visible. Nous ne sommes pas encore l'icône de Dieu, vous voyez. Par la grâce, ça devrait venir. Mais le but de la création, c'est pas non plus, j'allais dire, de faire les pieds à la créature, vous voyez, qui est de se cacher systématiquement. Parce que vous avez ces positions-là, hein, en théologie et dans les traditions religieuses. La preuve, c'est qu'il y a des traditions religieuses qui n'ont pas découvert la présence de l'être premier. Toute la sagesse chinoise et japonaise, mais enfin, qui est marquée par la Chine, est une sagesse qui ne parle, qui n'aboutit jamais à l'existence d'un être premier, ou même d'un absolu qui soit personnel. Et même d'un absolu tout court. L'absolu dans la sagesse chinoise est immanent. Il n'est jamais transcendant. On va demander à notre frère. Et c'est très impressionnant ça, de voir qu'au fond, et j'ai dit, les Chinois, ils nous ont pas attendu, hein, pour réfléchir. La réflexion de la sagesse chinoise, elle est très ancienne. Elle est bien plus ancienne que le christianisme, en tout cas. Et on voit bien que, ce qui montre bien que, encore une fois, la présence de Dieu comme un être dont la personne humaine est l'image la moins imparfaite n'est absolument pas évidente. Mais en même temps, c'est vrai que dans l'histoire de l'humanité, jusqu'à nous, il n'y a jamais eu de civilisation athée. Donc il y a toujours eu, j'allais dire, la création a toujours été suffisante pour éveiller l'homme à quelque chose. Même si c'est un absolu immanent, il y a quelque chose d'absolu. Nous sommes les premiers à décréter que l'absolu, c'est notre propre décision. Ça, c'est spécifique, j'allais dire, des maladies contemporaines. Alors, vous voyez, c'est la découverte du lien entre le créateur et la créature qui, en plus, me permet de dire qu'au fond, il y a là comme une première analogie de la révélation. Dieu se sert, c'est très étonnant. Il faut prendre le temps, j'allais dire, on n'a pas le temps de le faire, mais il faut prendre le temps de contempler ce lien, encore une fois, entre le créateur et la création. Et la manière dont... en philosophie, la première analogie, elle est toujours importante. Quand vous réfléchissez, avant de réfléchir sur l'intelligence, il faut commencer à réfléchir sur la nutrition. Parce que l'intelligence, c'est pas du tout intelligible comme ça. Quand on se penche dessus, on se l'imagine très rapidement, mais on n'y comprend pas grand-chose. Et donc le philosophe commencera par réfléchir sur l'assimilation nutritive. Puis ensuite, il réfléchira sur l'assimilation sensible. Et puis ensuite, il finira par réfléchir sur l'assimilation intellectuelle. Et par là, il arrivera progressivement, à partir de l'expérience, à affiner son intelligence pour qu'elle arrive à se plier à cette opération vitale extrêmement fine et pas du tout adaptée à l'imaginaire, qui est l'opération intellectuelle. Donc, mais plus mon réalisme de la nutrition, pas de manger, hein, mais de la nutrition, c'est la même chose, plus mon réalisme de la nutrition, de ce que c'est la nutrition au point de vue de l'assimilation du milieu, de l'appropriation du milieu par le vivant, sera fort. Et plus je serai capable ensuite, par analogie, en le purifiant évidemment à chaque fois, de saisir avec précision, dans l'opération d'intelligence, ce qu'elle est. Ben là, c'est la même chose. C'est en prenant le temps de me pencher, et ça c'est une des grandes intuitions de la théologie de l'Église, d'avoir insisté lourdement sur la théologie de la création, en disant c'est la pierre de base, si là-dessus je dérape, tout dérape. Très étonnant de regarder la manière dont au fond aujourd'hui, la théologie de la création est réduite au problème du Big Bang, enfin, ou des origines. Enfin, et on patine, on est dans la sauce complète au point de vue de l'intelligence. Déjà au niveau scientifique, un bon scientifique, c'est très bien qu'on est dans la théorie. Dire qu'on est dans la théorie, ça veut dire qu'on n'est plus dans la précision, parce qu'on est dans la construction hypothétique. Or précisément, j'allais dire, le travail sur la précision de ce qu'est le lien entre la créature et le créateur est capital. Le Moyen-Âge a passé son temps entre les théologiens juifs, les théologiens musulmans et les théologiens chrétiens à se disputer là-dessus. Ils avaient très fort senti que la clé d'une véritable attitude à l'égard de la révélation reposait là-dessus. Alors c'est pour vous renvoyer au travail que vous ferez un peu plus tard, qui est sur la création. Et sur le lien entre le créateur et sa création. Parce que c'est ça qui me permet de voir qu'une révélation est possible, puisqu'au fond, il en existe presque une dans la création. Mais qu'en même temps, la révélation, enfin, si je considère la création comme une révélation, elle n'est pas immédiate. Elle passe par l'œuvre. Alors la question, c'est de savoir est-ce que philosophiquement, le problème d'une révélation qui ne passe pas, enfin qui ne soit pas la création, a un sens. Vous voyez ? Ce qu'on va voir l'heure d'après. Vous voyez, au fond, est-ce que la question, c'est ça. Est-ce que c'est purement imaginatif ? Est-ce que le problème de la révélation est un problème, j'allais dire, qui n'apparaît absolument pas aux yeux de l'homme laissé à lui-même ? Au fond, c'est simplement le croyant qui dit « bon, ben voilà, il y a une révélation ». Ou est-ce qu'au fond, il y a quelque chose en l'homme qui attend la révélation ? Oui, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'homme qui attend ? Il a la création sous la main, ça fait déjà beaucoup. Il y a du chantier, là. Il a du labeur, du pain sur la planche. Et donc son intelligence, comme telle, j'allais dire, elle a s'attelé à ce travail qui est celui, encore une fois, de...
Session de théologie, la parole de Dieu, par le Père Samuel Arimont, le 30 octobre 1992, deuxième cours.
Avant de continuer, une petite précision. Cet après-midi, on fera 2 heures de cours et les questions-réponses seront ce soir, pour qu'on puisse avancer un peu. Alors, je vous posais la question tout à l'heure. Au fond, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'homme qui attende une révélation de Dieu autre que celle de la création, c'est-à-dire une révélation plus immédiate ? Quand j'analyse ce qu'est l'homme en philosophie, quand j'analyse ce qu'est la personne humaine, j'allais dire, elle n'a pas besoin d'une révélation. La personne comme telle, déjà la découverte de l'être premier est quelque chose de tellement grand pour elle, qu'au fond, dans ce qu'est la personne, elle ne réclame pas une révélation de Dieu. Ça peut lui ajouter quelque chose, c'est sûr. Ça, c'est évident. Bien placé pour le savoir, mais comme tel, il n'y a pas de nécessité. Par contre, quand je regarde l'état dans lequel elle vit, cette personne, la personne humaine, et quand je distingue ce qu'est l'homme, ce qu'il est, et puis sa manière de vivre, son mode existentiel, sa manière de vivre ce qu'il est, ça c'est la vocation humaine, ce qu'il est. Ça, c'est la manière concrète dont il réalise la vocation en question. Quand vous analysez l'amour d'amitié, en effet, vous êtes émerveillé devant ce que c'est que l'amour humain, ce que c'est qu'un lien personnel, la manière dont ça rend heureux. Puis ensuite, quand vous regardez dans la glace, vous voyez qu'il y a un décalage énorme entre la vocation de ce que nous sommes et ce qu'on en fait réellement. Et la philosophie s'achève sur ce constat douloureux qu'il y a un décalage effrayant entre ce qu'est la personne humaine et la manière dont elle se sert de ce qu'elle est. Si vous voulez, l'homme est un roi déchu. C'est un cristal rampant, quoi. C'est quelque chose de génial, mais qui a une manière de vivre qui est lamentable par rapport à sa vocation. Ça fait partie du constat philosophique. C'est ce qu'on appelle le mode tragique. C'est ça le tragique. de l'existence humaine. C'est que l'homme, il y a des limites intrinsèques à l'homme. Je ne peux pas voler. Ça, j'ai pas à m'en rendre malheureux. Par contre, ma capacité d'aimer est faite pour s'exercer de manière plénière. Or, elle a un mal fou à s'exercer d'une manière un minimum cohérente. Je suis fait pour contempler l'être premier. Et j'ai un mal fou à me dégager de l'imaginaire. Même je suis fait pour vivre normalement dans une santé physique qui soit la plus optimale qui soit, puisque je suis parmi les vivants celui qui normalement a la capacité vitale la plus optimum. Et je passe, vous voyez, ma vie à attraper des maladies. Ça fait partie, vous voyez, de ce dernier regard qui est évidemment lié au problème sur lequel le philosophe ne peut que se taire, qui est le problème du mal et de la souffrance. Ce problème, il est accru du fait que j'ai découvert l'être premier. C'est encore plus dur à accepter du fait que j'ai découvert l'être premier. Souffrir de quelque chose dont je ne sais pas qui est responsable, c'est beaucoup plus dur, beaucoup moins dur que de souffrir de quelque chose dont je sais qui est responsable. Donc c'est beaucoup plus difficile d'accepter le mal et la souffrance quand j'ai découvert l'être premier que quand je ne l'ai pas découvert. Parce que je sais, je suis de la même manière obligé de l'affirmer, qu'étant ce qu'il est, il a tout pouvoir sur le devenir. Et donc que c'est évident qu'il permet une situation qui est absolument catastrophique. Je suis obligé de l'affirmer. La dernière attitude du philosophe, c'est Job. Très simple. Et donc, c'est au fond de faire confiance, c'est là qu'il y a un abandon religieux, de faire confiance au Créateur au-delà de ce qui me scandalise de sa sagesse. Parce que ça sert à. Vous voyez, je vais dire, physiquement, ça ne veut rien dire qu'il y a des choses qui lui échappent. Ça ne veut rien dire. Ça serait pratique. Beaucoup de choses dans les traditions religieuses, hein, alors, c'est une petite parenthèse, énormément de choses dans les traditions religieuses s'expliquent par tentative d'expliquer ça. Le mal et la souffrance. La réincarnation et le karma oriental, c'est entièrement en raison du problème du mal et de la souffrance. La vision janséniste chrétienne qui n'a rien d'évangélique ni de chrétien, c'est entièrement en fonction de ce problème-là. Le pélagianisme, c'est aussi à cause du même problème. Donc vous avez toutes les déformations, j'allais dire, de la vérité sur le problème de Dieu et de l'attitude religieuse sont liées les trois quarts du temps à la non-acceptation de ce qu'il y a de tragique dans la vie humaine. C'est pour ça que c'est très grand Job. Regardez les gens, les amis de Job, comme dit le texte de l'Écriture. Ceux qui se chargent de lui expliquer théologiquement la raison pour laquelle il est dans l'état dans lequel il est. Et Job dit, je ne veux rien savoir de ce que vous me dites. Parce que ça n'explique rien. Mais c'est très beau parce que ça montre que... Et ça, l'homme a un mal fou. C'est le lieu où il compense le plus. Parce que c'est clair que j'allais dire, c'est pas un trou noir, si vous voulez, mais ce problème-là, il n'est pas solutionnable par l'intelligence. Et donc, spontanément, je vais le combler en justifiant d'une manière ou d'une autre. Et la grandeur d'une tradition religieuse, c'est ce à quoi Dieu appelle le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, hein, c'est l'acceptation de ce mystère. Et donc, il y a beaucoup de choses, j'allais dire, qui dévient dans les traditions religieuses à cause de ce problème-là. Donc, vous voyez, c'est pas simplement parce que il y a un manque de justesse dans la recherche religieuse, mais c'est parce que l'état de déchéance dans lequel l'homme est ne lui est pas supportable. Et donc du coup, il tord la vérité pour justifier l'état dans lequel il est. Alors nous, on est à la puissance 1000 dedans, hein. Je veux dire, le monde dans lequel on est, c'est ça, la puissance infinie. On n'est qu'un... La pensée contemporaine n'est qu'un gigantesque processus d'auto-justification du rejet de la foi. C'est très étonnant à analyser. C'est extrêmement construit, mais tout est fait pour justifier le fait qu'au fond, on nie progressivement tout le problème du mal et de la souffrance. Alors que toutes les grandes traditions religieuses, j'allais dire, ont toujours en leur centre ce problème-là. Et donc l'attitude la plus grande, encore une fois, du sage et de l'homme religieux, pour le coup, c'est de se tenir devant Dieu dans l'attente que lui, il lui explique quelque chose. C'est toujours Job. Job dit, je ne veux pas de vos explications. Il n'y en a qu'un qui puisse me dire quelque chose, c'est lui. Relisez, c'est extrêmement grand pour ça. Dites-vous, c'est vos il ne dit pas vos baratins théologiques, mais c'est quasiment ça. Vous tentez à vue humaine de me donner. Il n'y a que lui qui peut rendre raison de ce qu'il permet. J'ai presque dit, il oblige Dieu. Dieu sait ce qui se passe. Hein, c'est le début du. Quand Dieu dit maintenant, apparaît à Job, se met à parler à Job et lui dit maintenant, saint terrain, mon brave, et explique-moi qui a fait les montagnes. Et Dieu se met à lui raconter la splendeur de sa création. Et il dit, mais qu'est-ce que tu es par rapport à ça? Et Job dit, effectivement, je ne suis rien. Mais ce dont il avait besoin, c'est que ça soit Dieu qui le lui dise. Mais c'est très grand. C'est ça qui me fait comprendre comment. Donc, c'est pas dans la personne comme telle, dans ce qu'elle est, il n'y a pas de nécessité de la révélation. Mais l'attitude religieuse de l'homme dans sa situation tragique est l'attente d'une révélation de Dieu. Parce que la création ne lui suffit pas. La création suffit à l'homme pour s'abandonner au-delà du scandale. Mais ça ne le supprime pas, le scandale. J'allais presque dire, ça rend la question encore plus vive. L'homme appelle encore plus vers Dieu quand il a découvert sa sagesse. Mais j'allais dire, parce qu'au fond, c'est le point obscur de la sagesse de Dieu. Et là, je peux dire que l'homme est en attente d'une révélation qui soit, et encore une fois, on le voit bien dans Job, directe. Ce qui est très grand, parce que ça veut dire que, j'allais dire, cette écharpe dans la chair de l'homme, hein, ce problème, cette butée permanente du problème du mal et de la souffrance, est le lieu de l'expérience humaine qui me dispose à l'attente de la révélation. Donc c'est l'épreuve de mon incapacité, parce que c'est ça. Concrètement dans notre vie, c'est comme ça que ça se manifeste. Donc il y a une attente naturelle du salut. Pas à cause de ce qu'est l'homme, mais à cause de la condition dans laquelle il vit. Ce qu'il y a de plus beau, donc il y a Job, et puis il y a les tragiques grecs. Eschyle, c'est ça. Toutes les tragédies d'Eschyle, c'est ce thème-là. C'est l'homme qui est à la limite de la révolte. Il n'est pas dans la révolte. Mais face à ce qu'il y a d'incompréhensible dans la destinée humaine et l'apparente inhumanité de la divinité. Vous voyez, c'est dans cette lumière-là que... Alors... Cette attente de la révélation, alors c'est le même problème, hein, et c'est la dernière chose qu'il est capital de souligner, cette attente de la révélation chez l'homme, ou bien il n'attend plus et il se justifie en dehors du problème de la révélation, ou bien il s'imagine la révélation. Ouais, qui est la dernière, au fond, des projections, quoi. Qui est la justification la plus subtile. C'est de s'imaginer que Dieu a parlé. Parce qu'au fond, j'allais dire, l'attente est tellement insupportable qu'on finit par avoir des voix. Et ça explique aussi beaucoup de choses. Faut bien qu'il y en ait. Vous voyez, je veux dire, on crée une parole de Dieu. Et donc, j'allais dire, le dernier travail philosophique, si vous voulez, de réflexion sur le problème de la révélation, ça sera de dire, cette attente de Dieu doit se faire dans la lucidité de ce qu'on a vu tout à l'heure sur la sagesse. Sur la transcendance de Dieu et la création. C'est pas parce que le tragique implique une souffrance qu'il faut que la lucidité philosophique bascule. Au contraire. C'est ça, la magnanimité dernière de l'homme, c'est celle-là. Ce qu'il va se garder aussi de confondre, encore une fois, c'est-à-dire le mirage et l'hallucination, vous voyez, avec la vérité d'une révélation. J'allais presque dire pour que l'homme soit prêt à reconnaître Dieu le jour où c'est vraiment lui qui lui parle. Et ça fait partie du travail du croyant. Vous voyez que
de préparer son intelligence à reconnaître que c'est vraiment Dieu qui lui parle. Pas parce que j'ai des doutes. Le but, c'est pas d'enlever mes doutes. Les doutes, je les ai pas parce que la certitude, ça laisse pas de place aux doutes. Mais ça me permet de mieux faire face à celui qui me parle. Je prends l'exemple de la Genèse. Quand vous lisez la Genèse en croyant, j'ai uniquement envoyé en enfant de Dieu, enfin en enfant de Dieu, avec simplement un cœur d'enfant, vous le recevez, bon, et puis vous l'accueillez comme une parole de Dieu, et vous dites c'est magnifique. Et puis dans un deuxième temps, le risque c'est qu'on vous dise oui, mais tout ça c'est du symbole. Et des mythes, il y en a plein d'autres, des mythes. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que vous accordez une importance particulière à ce mythe de la Genèse. C'est un mythe comme les autres. La seule chose, c'est qu'il justifie votre vision judéo-chrétienne. C'est courant aujourd'hui, vous voyez, je veux dire, c'est un mythe parmi les autres. Et il y en a beaucoup d'autres qui racontent les mêmes choses. Le vrai travail, il est précisément, et c'est celui du croyant, d'aller voir les autres mythes. Et de voir comment précisément la figure de Dieu n'apparaît absolument pas dans les autres mythologies. Alors que c'est le propre de la Genèse. Rien qu'à lecture humaine, j'allais presque dire en dehors de la foi, que d'y découvrir la pureté d'une sagesse à travers le symbole qui est stupéfiante. Vous n'avez aucun délire imaginatif, alors que dans presque toutes les mythologies, vous avez de la fantasmagorie, il n'y en a pas du tout. Relisez, lisez la théogonie d'Hésiode. Pas le soir, parce que ça donne des cauchemars. Mais... lisez la théogonie d'Hésiode, et puis lisez la Genèse à côté. Vous allez voir la différence, entre guillemets, d'atmosphère. Il y a une limpidité de sagesse. Regardez la vision de l'homme et la femme dans les mythologies, et puis regardez-la dans la Genèse. Et plus on creuse la Genèse, j'allais presque dire uniquement dans une lumière de sagesse philosophique, et plus c'est très impressionnant de voir que l'intelligence y découvre le peu qu'elle perçoit de Dieu, enfin le peu qu'elle est capable de dire de Dieu. J'allais dire, elle reconnaît sa présence. C'est pas ça qui l'oblige à la foi. Oui, j'ai dit, mais c'est ce qu'on appelle des motifs de crédibilité. C'est-à-dire que je découvre qu'au fond, la parole de Dieu chrétienne a une sagesse humaine parfaite. Tout ce que je découvre en sagesse philosophique, je le redécouvre sous un mode symbolique dans l'écriture. Enfin, sous un mode symbolique, oui, sous le mode propre qui est celui de l'écriture. C'est pas ça qui m'oblige à croire. Mais c'est ça qui me permet de mieux recevoir, j'allais dire, la finesse de la lumière divine. Et aussi d'avoir moins de scrupules, c'est-à-dire que du coup, je n'ai plus aucune hésitation à rentrer à fond dans la symbolique de la Genèse. Et à ne pas me demander si ça s'explique sociologiquement par les effets climatiques de l'époque à laquelle ça a été rédigé. Vous riez, moi j'ai lu des choses comme ça, où en fait, le moment où ils sont chassés d'Éden par le glaive fulgurant, c'est parce qu'il y a une grande sécheresse dans le pays du coin, dans le coin dans lequel ils étaient. Et alors, ils ont dû partir à cause de la sécheresse, donc c'est le glaive fulgurant de feu, vous voyez, qui les pousse en dehors du jardin, parce que c'était, ils cultivaient merveilleusement, puis tout d'un coup, il y a une grande sécheresse et ils sont partis. Donc ça vous explique le départ du jardin d'Éden. Bon, très bien, mais autant lire un livre de géographie, vous voyez, puis broder dessus, je dis, ça n'a pas... Le but de Dieu n'était pas de faire de la climatologie dans la Genèse, ni de me raconter, vous voyez, le comportement des premières civilisations... dans la région mésopotamienne. Donc j'allais dire, ça m'aide à aller plus loin dans la réception. Donc vous voyez, cette tension entre l'attente, qui est une attente du cœur, hein, et de l'intelligence, face au problème du mal et de la souffrance, et en même temps, cette exigence de la vérité. Ça demeure dans le croyant. Le croyant recevant ce qu'on va voir, la révélation, n'en garde pas moins l'exigence de la vérité. Non pas qu'il cherche à tester la vérité de l'écriture, mais parce qu'il sait que, précisément, j'allais dire, cette parole, cette révélation, si elle est de Dieu, réclame une acuité de l'intelligence plus grande. Oui, je veux dire, le travail d'intelligence toujours plus grande à avoir de la révélation n'est pas là pour la justifier. Montrer que la révélation c'est très intelligent, ça n'a pas pour but de montrer qu'elle est vraiment divine. Ça ne m'intéresse pas de le prouver qu'elle est divine. Qu'elle soit déjà très intelligente, ça suffit. Parce qu'on le reverra, la seule chose qui me prouve qu'elle est divine, c'est le don de la grâce. C'est pas parce que c'est très intelligent que c'est divin. Einstein était quelqu'un de génial, ça n'est pas, il n'était pas pourtant un prophète. C'était très intelligent. Les tragiques grecs, c'est très intelligent, c'est pas la parole de Dieu. Je dis ça parce que c'était la tentation du 19e. Enfin, déjà, à partir du. C'est déjà ce que fait un peu Pascal, hein, c'est ce qu'on appelle la tentation. C'est le travers apologétique, vous savez, qui est de vouloir montrer qu'au fond, on a raison de croire ce qu'on croit. Et on passe tellement de temps à se persuader qu'on a raison de croire ce qu'on croit qu'on oublie de le croire. Et qu'on ne le croit plus que parce qu'on a raison de le croire. Vous voyez, c'est très intelligent ce qu'on croit. Et au fond, c'est tellement intelligent que c'est pour ça qu'on croit, c'est parce que c'est intelligent. Mais on ne le croit plus qu'à la mesure de ce qu'on comprend. Alors que le propre de la foi, c'est précisément de recevoir quelque chose que je ne comprends pas du tout. Et de le laisser s'installer au beau milieu de mon intelligence, incompréhensible qu'il est. Rappelez-vous la fameuse parole du recouvrement de Jésus au temple. Ils ne comprenaient pas ce qu'il leur disait. Et le verset d'après, et Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Marie gardait ce qu'elle ne comprenait pas. Ça, c'est le travail du croyant. Après, une fois que j'ai reçu, donc c'est pour ça que je vous disais, je reçois l'écriture et la parole de Dieu. Tout ce travail que j'ai à faire, il est pour mieux la recevoir, mais ce n'est pas la condition. Ne vous inquiétez pas, quand vous avez au niveau apostolique, si vous essayez de prendre le temps de montrer qu'au fond, l'écriture est tellement intelligente qu'on prendrait, vous voyez qu'il faut vraiment la recevoir, les gens seront partis avant que vous ayez fini. Hein. Parce que ça ne sert à rien, je veux dire, de d'abord c'est très compliqué. Faut déjà avoir un cœur d'enfant, l'avoir reçu pour appliquer son intelligence à l'écriture. La réponse de Dieu, puisque c'est ça la révélation. Oui, c'est important de voir qu'elle est d'abord une réponse de Dieu. En plus, elle est gratuite. On va le revoir, mais elle est d'abord une réponse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du côté de ce tragique de l'homme, la révélation était nécessaire. Voilà, ça ne veut pas dire que Dieu y était obligé. Hein. Mais j'allais dire, pour que l'homme puisse aller jusqu'au bout de sa vocation, il avait besoin de la révélation. Et c'est très beau de voir que dans la révélation, Dieu s'adapte à l'attente du cœur de l'homme. Mais il faut bien la situer, l'adaptation. Dieu ne s'adapte pas à mes attentes historiques, ni à mes attentes sociologiques, ni à mes attentes géographiques. Donc l'écriture, ce n'est pas un traité de géographie, ni d'histoire, ni de sociologie, ni de poésie. Ce à quoi Dieu répond, c'est cette attente-là du cœur de l'homme. C'est-à-dire qu'au fond, la possibilité d'en sortir de cet état brisé lui soit révélée. Donc la révélation, elle est d'abord la révélation du salut. Ce qui est, Abraham, Dieu ne dit pas à Abraham, installe-toi, je vais te faire un cours de théologie. La première parole de la révélation de l'Ancienne Alliance, c'est quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père. Nous, on n'aurait pas fait comme ça. Oui. On aurait dit, bon, installez-vous, on va vous expliquer les choses. C'est très beau d'ailleurs, vous voyez, de voir... De voir que vraiment la révélation commence par un ordre de tout quitter. Et pas d'abord par une explication. Il n'y aura jamais d'explication. Regardez toute l'écriture, il n'y a pas d'explication. Il y a Dieu qui parle à ceux qu'il aime, mais il n'y a pas d'explication. Jésus n'explique jamais rien. Regardez bien, les pharisiens veulent des explications. Il ne leur donne jamais d'explication. Il leur donne lui, il se donne lui-même à travers ce qu'il dit, mais il ne donne pas d'explication. Et donc, la révélation, elle est d'abord pour le salut. Si vous voulez, sa finalité, c'est d'abord le salut. C'est ce que je vois en la lisant, la révélation. Je vois bien qu'elle elle est faite pour le salut. Mais j'allais dire, le travail de la philosophie et cette réflexion sur ce qu'il y a de tragique dans la vie humaine me donne encore plus le sens de cette attente, vous voyez, de cette réponse de Dieu à l'attente du salut. C'est ce qui est le plus beau dans l'évangile. Ceux qui reçoivent ce que dit Jésus et qui le reçoivent en sa parole, c'est tous ceux qui ont besoin du salut, parce qu'ils sont lépreux, boiteux, tordus, possédés par le démon, et tout ce que vous voudrez. Et ceux qui attendent des explications, ils ne reçoivent rien du tout. Parce qu'ils attendent des explications, ils n'attendent pas Dieu. Vous voyez, c'est capital de voir que la révélation, elle est d'abord l'attente, enfin la révélation, c'est d'abord la parole de Dieu qui me sauve. Donc ce n'est pas d'abord la parole de Dieu qui m'explique quelque chose. La parole, la révélation n'est pas d'abord un enseignement. Et c'est très beau, c'est tout l'Ancien Testament. L'essentiel de l'Ancien Testament, c'est pas ce que Dieu dit, c'est le fait qu'il parle. Dieu dit rien de très original dans l'Ancien Testament, point de vue du contenu. Tout le décalogue, c'est déjà, on peut le découvrir en éthique religieuse. C'est pas le contenu de l'Ancienne Alliance qui est impressionnant, c'est précisément le fait que Dieu parle et qu'il fasse alliance avec son peuple. C'est ça, j'allais dire, vous voyez, la révélation, elle est là. Alors, dans le Nouveau Testament, c'est son contenu. Mais dans l'Ancien, vous voyez, je veux dire, c'est pour ça qu'il y a une pédagogie divine merveilleuse. Dieu commence par me dire qu'il me parle avant de me dire, au fond, ce qu'il a vraiment à me dire. Alors, il fait déjà beaucoup, hein. Il m'explique que j'aurais dû être capable de découvrir tout seul et ce que le bon peuple hébreu aurait jamais été capable de découvrir tout seul. Ce que souligne saint Thomas, heureusement que Dieu a parlé, parce que sinon, on serait toujours à ramer dans le désert. De nos incompréhensions, de nos imaginations, vous voyez. Enfin, pour nous, heureusement que la foi nous dit que Dieu est, parce que, vous voyez, on a beaucoup de contemporains qui n'ont pas la chance de le savoir et qui ne sont pas prêts de le savoir si on ne vient pas le leur dire. Ensuite, et à l'intérieur, j'allais dire, de cette parole de salut, Dieu ne se contente pas de me parler, il me dit quelque chose quand même. Sinon, il n'y aurait pas eu besoin de tout ça, ça fait beaucoup la Bible. Il aurait pu répéter tout le temps la même chose. Or, il dit beaucoup de choses, puis il dit des choses très différentes les unes des autres, il a même l'air de perdre du temps à dire des choses inutiles. C'est vrai, posez-vous la question, c'est le problème de la parole de Dieu, pourquoi est-ce qu'il nous raconte tout ça? Il faut faire des digestes, qu'aujourd'hui vous faites un que sais-je, vous remplacez la Bible par un que sais-je. Ça s'appelle le credo. Dans le credo, vous avez toute la Bible. Pourquoi Dieu s'est fatigué en plus à faire tout ça? Avec tous les risques que ça comporte, et il y en a, et il y en a toujours. Qui s'est servi de gens tordus qui ne comprenaient pas ce que, qui étaient les instruments involontaires, comme l'ânesse de Balaam, de sa révélation. Ensuite, il y a des gens, j'ai dit, il a fallu que inspirer aussi des gens pour compiler les textes de manière intelligente selon la sagesse divine, et puis après ça, il a fallu les transmettre de manière correcte, il a fallu se fatiguer à constituer l'Église pour qu'on n'interprète pas trop de travers, et même avec tout ça, on a du mal. C'est pas simple, vous voyez, ça aurait été plus simple si on avait fait autrement. Faut bien le voir, parce que c'est... Vous voyez, il faut le voir, le paquet de la Bible, là, il faut le lire une fois de début jusqu'à la fin. Puis demandez-vous, qu'est-ce qu'il vient faire dans le livre des nombres à nous raconter, vous voyez, à nous dénombrer le cheptel des tribus d'Israël. Vous nous expliquez comment Jacob, je sais pas trop quoi, avec des espèces de baguettes, se débrouiller pour provoquer des brebis tarées et des brebis pas tarées pour les récupérer. Enfin, il y a des histoires inimaginables dans l'Écriture. Et en apparence, ça n'a rien à voir avec le salut, et encore moins quand tu as un enseignement divin. Mais il faut se poser cette question, parce qu'on va vous dire, mais oui, vous voyez bien, c'est le signe que vous n'êtes pas une révélation autre que les autres. Vous aussi, vous avez des baratins inutiles. Et le contenu, ça n'a pas besoin de la Bible pour exister. Dégager l'enseignement l'essentiel de l'enseignement de Jésus, on retrouve ça dans toutes les autres traditions religieuses. Et vous avez vos fatras imaginaires sur les miracles et toutes ces histoires-là, comme les autres. Donc allez pas nous raconter que vous avez quelque chose de spécifique. La seule chose, c'est que vous êtes attaché à votre tradition parce qu'on vous lit depuis que vous êtes tout petit, comme les autres à la leur. Ça porte, hein. Je veux dire, vous dites ça à un jeune aujourd'hui, ça porte à plein. Et c'est vrai que la question, il faut se la poser. Pourquoi Dieu s'est fatigué à tout ça? Ça, c'est la question sur laquelle on va travailler, qui est celle de la parole de Dieu. C'est vrai, en soi, si on avait eu, nous, à faire quelque chose, on n'aurait pas fait ça. Regardez, quand on dirige une entreprise, on fait un projet d'entreprise avec des idées claires, des projets clairs, des explications claires, et on met tout en œuvre. Et on ne raconte pas des pages et des pages d'histoire. dans lequel en plus il y a un travail énorme à faire pour y voir une unité. C'est l'avantage de la parole de Dieu, c'est que vous n'avez pas tout et le contraire, mais bon, vous avez presque tout. Et j'allais dire, j'ai toujours besoin de l'éclairer, toute parole a besoin d'être éclairée par une autre. Pourtant, je vois bien que, et c'est ce que j'allais presque dire, le début et la fin de la révélation, de la Genèse à l'Apocalypse, je vois bien que l'essentiel, c'est quand même l'annonce du salut. Donc ça, c'est mon axe, vous voyez, et j'allais dire, c'est la lumière dans laquelle je dois tout lire, y compris le cheptel de Jacob. Ça me prendra du temps avant de discerner en quoi est-ce que c'est un lien avec le salut, ça, c'est pas le problème que ça me prenne du temps. Ça fait partie de la foi. Oui, c'est ça aussi qui explique d'ailleurs que toute la parole est finalisée et actualisée en Jésus. Il est le salut Jésus. Mais c'est clair que vous ne voyez pas à première lecture le lien entre les histoires de Jacob et Jésus. Et les pères d'église, ils n'ont pas eu peur. Hein. Ils se sont attaqués au cheptel de Jacob pour y voir des préfigurations de l'église. Et du jugement dernier entre les bons et les méchants. C'est leur intention qui compte. Ensuite, du côté de l'exercice, on n'a pas nécessairement à faire la même théologie. Hein. Mais c'est l'intention qui est grande. Qui est de ne pas avoir peur que le moindre verset de l'écriture est un lien au mystère de la révélation, du salut. Alors, vous voyez, j'allais dire, je commence à voir pourquoi Dieu me parle, parce que j'ai besoin d'être sauvé. Et ce qui me sauve, c'est pas sa parole, c'est lui. Donc si Dieu me parle, c'est pour se révéler lui. Vous voyez, je veux dire, c'est, encore une fois, je veux dire, le but n'est pas de me dire des choses. La première chose, c'est que lui me parle. Donc c'est la présence de Dieu dans sa parole qui est première avant toute chose. Et tout ce que je vais avoir à recevoir du contenu de cette parole est relatif à celui qui me parle. Ça, c'est élémentaire. On sait bien que quand on commence à dissocier ce qu'on nous dit et celui qui nous parle, on est très mal parti. Parce que nous, on lui fait dire ce qu'on veut. Donc tout ce que je reçois comme contenu, tout ce qui m'est dit dans la parole de Dieu, ne peut pas être séparé de celui qui me parle parce que la parole de Dieu est pour le salut. Qui veut dire que la parole de Dieu ne peut jamais d'abord être objet d'analyse historique, géographique, sociologique, ni même de sagesse religieuse. Au sens fort, j'allais dire, pour le croyant, elle est d'abord reçue comme une parole de salut. Et tout le reste devrait l'aider à le recevoir encore plus comme une parole de salut. Vous pouvez faire une étude sur l'agriculture dans la parole de Dieu. Eh bien, ce qui vous permettra que votre travail soit théologique, c'est s'il est finalisé par le texte du bon grain, du grain de blé qui tombe en terre et qui meurt. Sinon, c'est très bien, vous faites de l'histoire, vous voyez, de l'agriculture dans le peuple hébreu. Alors, la deuxième chose qui est particulière, et encore une fois qui est liée, on va le revoir, au fait que Dieu me parle, c'est que Dieu ne se contente pas de dire qu'il me sauve, même si c'est ce qu'il me dit à travers tout. Mais il me révèle ce qu'est l'homme et qui il est, lui. Ce qu'est l'homme dans son regard, qui il est, lui, et ce qu'est l'homme et la création dans son regard. Il me révèle sa sagesse. Mais il ne me révèle plus sa sagesse à travers son œuvre. Il me révèle sa sagesse à travers la parole humaine. Il se révèle comme sagesse. Et donc, Dieu ne se contente pas de m'annoncer le salut, il me révèle qui me sauve. Oui, j'ai dit, c'est le deuxième degré de la révélation, qui n'est pas séparable du premier, mais que je peux distinguer. Je suis sauvé et par qui je suis sauvé. Vous savez, c'est cet exemple très beau qu'on avait il y a deux dimanches, je crois, ou trois dimanches, des lépreux. Jésus guérit 10 lépreux. Et sur les 10, il n'y en a qu'un qui revient. Ils ont tous été sauvés. Mais il n'y en a qu'un qui était intéressé de savoir par qui il était sauvé. C'est celui qui est revenu. Tout homme est sauvé. Le propre du chrétien, c'est que normalement, il s'intéresse à savoir par qui il est sauvé. Enfin, tout homme, de bonne volonté, est sauvé. C'est très beau parce que si vous regardez du côté du témoignage du chrétien, la première chose dont il a témoigné au milieu des hommes, c'est de l'espérance du salut. C'est annoncer la bonne nouvelle que nous sommes sauvés. Et ça, il l'annonce par la main dont il vit de l'espérance. Mais ensuite, s'il le peut, il a annoncé par qui il est sauvé. Parce que la finalité dernière de la révélation, c'est de me conduire à la vision béatifique. C'est repasser mon éternité face à celui qui me sauve. Et je peux même dire à ce stade-là qu'au fond, j'allais pas dire que le salut est un prétexte pour me révéler qui il est, mais il y a quelque chose de ça. Dieu ne me sauve que pour mieux me révéler et se donner à moi. Je dis ça parce que il y aura deux tentations, vous voyez, deux extrêmes. Ou bien de regarder la révélation uniquement du côté du salut. Tentation très contemporaine, ça. Qui est de dire au fond, l'essentiel de la révélation chrétienne, c'est de dire à l'homme qu'il est sauvé. Donc on réduit le Nouveau Testament à l'Ancien. Et tout le reste, si vous voulez, c'est au fond l'interprétation humaine du mystère de Dieu. Ce qu'on appelle, quand un sociologue étudie, les religions du salut. Alors il y a deux religions du salut, il y en a d'autres même d'ailleurs, mais il y a deux religions essentielles du salut, le christianisme et le judaïsme. Donc la première tentation, c'est ça, c'est de réduire la révélation au salut. L'autre, c'est évidemment de réduire la révélation à la connaissance. Ça s'appelle la gnose. L'essentiel de la révélation chrétienne, c'est de me révéler la Sainte Trinité. Le problème, c'est que la Sainte Trinité, elle ne m'est pas révélée en dehors du fait que je suis sauvé. Vous voyez, c'est là où on commence à comprendre pourquoi il y a tout l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne me dit rien, ne me dit pas grand-chose de celui par lequel je suis sauvé. Donc Dieu ne se contente pas de me révéler qu'il me sauve, mais il me révèle la béatitude qu'il veut pour moi, au-delà du salut et à travers le salut. Vous comprenez à ce moment-là la convenance qu'il existe entre la révélation et le Christ. Dans le Christ, celui qui me sauve la révélation de celui qui me sauve est la plus parfaite qui soit. Quand Jésus, il s'agit plus simplement d'une parole, il s'agit de l'humanité de Jésus. Mais donc, la révélation, elle atteint sa densité la plus grande en Jésus. Alors, dire que la révélation regarde le salut et la connaissance, c'est dire que la révélation est objet de contemplation, mais que Dieu ne me donne jamais rien à contempler qu'il ne me donne. La révélation est un don. Donc elle s'adresse à l'amour, à la capacité d'aimer, à ma capacité d'aimer, en même temps qu'à mon intelligence. Ce que je vous disais, la révélation n'est jamais une explication. Elle est la révélation du don qui m'est fait. Donc je ne peux jamais séparer la révélation du don. Oui, parce que le mot révélation, il est d'abord pour l'intelligence. C'est pas une vitrine, si vous voulez, la révélation. Mais plus je reçois le don qui m'est fait, plus je reçois le salut, et plus ma contemplation du mystère est profonde. Et plus mon intelligence dans la foi s'éveille à la contemplation du mystère, et plus j'ai soif de recevoir celui qui se donne. Oui, c'est les liens. Ça, c'est comme au fond, en éthique, de regarder les liens entre la connaissance et l'amour. La connaissance accroît la soif d'aimer. Et l'amour pousse l'intelligence ou tire l'intelligence à aller plus loin. Alors je pense que c'est ce que vous regarderez avec le Père Philippe. Vous voyez comment est-ce que la parole de Dieu, la révélation et la parole de Dieu trouvent leur densité la plus grande, évidemment, en Jésus. Ce qui ne veut pas dire que Jésus, d'ailleurs, oui, ça veut dire qu'il y a une convenance entre la révélation et le mystère du Christ. Ce qui ne veut pas dire que la révélation explique le Christ. C'est encore une gratuité supplémentaire. Dieu pouvait se passer de Jésus pour se révéler. C'est pour ça qu'il ne nous est pas dit. Il nous est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'est pas dit, Dieu voulait se révéler tellement au monde qu'il a donné son Fils unique. Ni la pauvreté de l'homme était telle qu'il avait tellement besoin de Dieu que Dieu nous a donné son Fils. Vous voyez ? Donc, le mystère de Jésus, il n'y a aucune nécessité au mystère de Jésus. Il y a des convenances. Si vous voulez, Jésus accomplit la révélation, mais en même temps, il est infiniment plus que simplement la révélation. C'est le propre d'ailleurs du mystère de Jésus, c'est de dire qu'il est, il est à la fois celui qui me révèle et celui qui est révélé. C'est ça qui est infiniment grand dans le mystère du Christ. Alors vous comprenez mieux que le travail de la théologie, pour y revenir, c'est essayer, appuyer sur la foi, de recevoir le mieux possible ce que Dieu me dit. Tout en sachant que la foi, la théologie s'appuie sur la foi et pas l'inverse. Oui, la théologie s'appuie sur cette adhésion dont je vous parlais au début. Elle vient se greffer sur cette adhésion de foi. Et elle n'a pas pour but de justifier la foi, mais de favoriser un exercice de plus en plus plénier de la foi. En sachant, encore une fois, que j'ai dit, la seule chose qui me révèle l'authenticité de la révélation se fait à l'intérieur du don de la foi. Ce qu'on dira en disant que la foi implique en elle-même sa propre certitude. Dieu ne se contente pas de me donner la lumière. Il me donne la certitude que c'est lui qui me la donne. C'est ça le don de la foi. Alors, on dirait, on ne le sent pas toujours. Ça, c'est sûr. Subjectivement, c'est sûr. Vous savez, quand Saint Jean dit « Vous n'avez pas besoin d'enseignement parce que vous avez reçu l'onction. » Il y a quelque chose de juste. Vous voyez, une des choses légitimes dans la réaction de la réforme, c'est ça, c'est de dire au fond, l'esprit du croyant est fait pour découvrir lui-même la présence de l'Esprit-Saint à travers la parole. Alors l'erreur, c'était de s'imaginer que pour autant, il peut se passer de la tradition. Mais la tradition, si vous voulez, c'est pas un carcan, la tradition, c'est un guide qui m'empêche de tomber dans les fossés, sur une crête, si vous voulez, parce que c'est quand même une crête, la révélation. Mais c'est pas l'Église qui me prouve que la révélation est juste. Ce qui me prouve que la révélation chrétienne est une révélation divine, ça n'est rien d'autre que la foi. C'est pour ça qu'il n'y a que dans l'oraison que je découvre que la révélation est divine. Il n'y a que dans l'acte de foi que je découvre que la révélation est divine. L'Église me le dit, la théologie ne me le prouve pas, mais m'explique toutes les convenances qu'il y a pour que ça soit Dieu. Vous allez me dire, mais du coup, c'est très subjectif, votre histoire. Parce que c'est... La preuve du mystère, c'est qu'effectivement, c'est subjectif à la manière dont de Dieu, si vous voulez. Il n'y a que l'Esprit, dit saint Paul, qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais c'est très beau de voir que, ultimement, tout ce travail de la théologie, tout ce travail de l'intelligence, s'accomplit dans l'adhésion de mon cœur et de mon intelligence au mystère. Oui, on commence à comprendre que l'acte de foi est la source de tout acte théologique. Et c'est très beau parce que si vous regardez bien, la parole de Dieu, c'est ce qui permet à mon intelligence d'exercer la foi à l'égard du mystère. Vous voyez ? J'adhère au mystère à travers la parole de Dieu. Jésus me parle du Père. Je m'appuie sur la parole de Jésus me parlant du Père pour adhérer au mystère du Père. J'ai besoin. C'est parce que Jésus m'en parle que je peux le faire. Sinon, je veux dire, ça ne veut rien dire du tout. C'est complètement imaginatif. Et dans mon acte de foi, j'ai le désir de rejoindre le mystère du Père comme Jésus m'en parle et pas comme je le comprends. Parce que je peux avoir une vision de la paternité que de m'en déformer, c'est pas ma question. Je cherche pas à me faire une idée de la paternité divine, je veux la rejoindre telle que Jésus m'en parle et me la donne. D'accord ? Donc la parole de Dieu permet l'exercice de la foi. Et en même temps, la parole de Dieu va permettre à ce que, appuyé sur la foi, l'intelligence fasse le travail de la théologie. On verra comment. Mais j'allais dire, la parole de Dieu, à la fois, c'est le propre d'une icône d'ailleurs. L'icône est une bonne image pour ça. L'icône, elle a pour but de me conduire à ce qui est au-delà d'elle. Hein, le but d'une icône, c'est pas un tableau de Rubens, ou même de Léonard de Vinci. Le but, c'est pas de vous expliquer les choses, c'est d'abord de vous conduire au mystère. Et ensuite, c'est de vous donner dans la lumière de l'adhésion au mystère, vous voyez, d'éveiller votre intelligence pour la recevoir encore plus, le mystère. Ça ne se regarde pas comme un tableau, une icône. Ça se regarde dans la foi. Oui, j'allais presque dire, une icône, elle est éclairée par derrière. Ben, la parole de Dieu, c'est la même chose. La parole de Dieu, parce qu'elle me met en présence du mystère, me permet d'exercer la foi. Et appuyer.